RTL Sport sur RFI. Thomas de Saint-Léger, Cédric de Oliveira.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mondial Sport, votre rendez-vous prend l'accent russe ce soir. Normal, l'actualité c'est le football. Coupe du Monde et coup de chaud pour l'Allemagne, sauvée par un coup de crosse. Berezina, évité de justesse, nous dira Cédric de Oliveira. Des aigles aux ailes brisées, d'autres qui décollent. Destin opposé pour la Tunisie et le Nigeria. Vous entendrez Guernot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles. Dans cette émission aussi, le regard d'Habib Bey, l'ancien international sénégalais, à la veille d'un match décisif pour les Lions de la Teranga contre le Japon. Et puis, nos envoyés spéciaux nous diront si l'Argentine peut se relever, si la France s'est reposée et si la Russie s'est bien amusée. Merci d'être fidèle au poste. Mondial Sport, c'est parti. On commence par le groupe F et cette catastrophe évitée de justesse par l'Allemagne, les champions du monde en titre, qui après leur défaite face au Mexique 1-0 dimanche dernier, voulaient se relancer face à la Suède. Bonsoir Cédric de Oliveira.
Bonsoir Thomas.
Et la Mannschaft a eu très très chaud.
Oui, ça s'est joué à pas grand chose effectivement. L'Allemagne qui a démarré avec des changements. Reus et Rudi titularisés à la place de Mesut Özil et Sami Khedira au milieu de terrain. Mais malgré une nette domination, la Mannschaft s'est fait piéger sur une magnifique inspiration de la Toivonen qui joue à Toulouse et qui a lobé Neuer à la demi-heure de jeu. Les Allemands qui ne se sont pas désunis et qui ont égalisé par Reus dès le retour des vestiaires, toujours aussi inefficaces. Ils ont buté longtemps sur le gardien suédois Robin Olsen à 10 contre 11 après l'exclusion de Boateng. Les Allemands n'ont pas abdiqué et ont été récompensés en toute fin de match.
La 95e minute précisément et ce coup de génie de Toni Kroos.
Ouais, il restait une poignée de secondes et c'est après un coup franc joué à deux avec Reus à l'entrée de la surface sur le côté gauche que le milieu de terrain du Real Madrid a placé une frappe imparable dans la lucarne opposée d'Olsen. Score final 2-1. L'Allemagne sauve donc sa tête in extremis. Deuxième du groupe. Elle a même son destin entre les mains.
Deuxième du groupe derrière une équipe du Mexique toujours aussi convaincante.
Après leur succès face à l'Allemagne, les Mexicains ont cette fois dominé la Corée du Sud assez logiquement. Un pénalty de Carlos Vela en première période et un but de Javier Chicharito Hernandez à la 66e minute ont mis la sélection sur les bons rails. Heung-min Son, le joueur de Tottenham, a bien réduit la marque d'une belle frappe enroulée dans le temps additionnel. Sans conséquence, le Mexique l'emporte 2-1 et reste premier du groupe F avec 6 points devant l'Allemagne et la Suède. 3 points. En revanche, c'est quasiment terminé pour la Corée du Sud. Dernière avec 0 points. Il lui faudrait un scénario improbable lors de la dernière journée pour se qualifier.
Quasiment terminé pour la Corée du Sud. Quasiment terminé aussi pour la Tunisie. Les Aigles de Carthage battus 2 fois. La première en début de semaine contre l'Angleterre. 2-1 cette fois. L'addition est plus salée, 5-2 contre des Belges diaboliques. C'était à Moscou où nous rejoignons Eric Mamrud. Bonsoir Eric.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Eric, il n'y a pas eu photo aujourd'hui entre les deux équipes.
Non, même si les Tunisiens montraient un visage beaucoup plus conquérant que face à l'Angleterre à Volgograd, ils se sont heurtés à une équipe supérieure à tous les niveaux, une formation belge ô combien rapide, percutante, qui a ouvert le score dès la 6e minute par Eden Hazard sur penalty. 10 minutes plus tard seulement, deuxième but avec Romelu Lukaku à la conclusion d'un contre fulgurant, initié à la suite d'une grossière perte de balle d'Ali Maloul. Dans la foulée, les Aigles qui n'ont jamais renoncé dans ce match ont réduit la marque sur coup franc par Dylan Brown, mais le nouveau but de Lukaku juste avant la pause allait leur faire très mal. Un but avant la mi-temps, donc puis un autre juste après, encore une fois sur un contre, cette fois conclu par Eden Hazard. La défense tunisienne était totalement dépassée. Michy Batshuayi, entré en jeu, se crée trois énormes occasions avant de conclure sur la quatrième, 5-1 et enfin 5-2 sur un but de Wabi Kazri à la toute dernière seconde. Les hommes de Nabil Maloul, malgré les nombreuses erreurs, se sont montrés, il est vrai, très généreux. Aujourd'hui, ils ont développé du jeu et c'est ce que voulait retenir surtout le capitaine Wabi Kazri.
Moi, je suis content de ce match. On s'est procuré des occasions, on était de l'avant, on a été en nombre. Après, le niveau était trop élevé, il ne faut pas se voiler la face, c'est des joueurs de très grand talent et surtout quand tu commets des erreurs comme ça où tu as le ballon et que tu le donnes, ça ne les empêche pas de te faire mal et de te mettre des buts. Après, on a la chance de revenir à 2-1 dans le match. Et ce but, avant la mi-temps, nous fait énormément de mal. Je pense qu'à 2-1, on aurait peut-être pu un peu les embêter un peu plus. Et 3-1, ça nous a mis un coup moral. Et il faut saluer la Belgique qui est un très gros adversaire et le niveau est trop grand. Là où j'ai des regrets, c'est plus sur les buts qu'ils mettent parce que ce n'est pas des buts construits. C'est nous qui avons le ballon à chaque fois et qui leur donnons. Et quand c'est des joueurs là, ça ne pardonne pas. Donc après, ça nous montre encore la marche qu'il y a à gravir pour essayer de les titiller un peu. Le niveau est très élevé et je te dois de commettre le moins d'erreurs possible. Et quand tu en commets, malheureusement tu le payes cash.
La Tunisie qui avec 0 point au compteur est quasiment éliminée. En fait, pour garder un espoir, il faudrait que le Panama batte l'Angleterre demain à Nijni Novgorod.
C'est pas gagné, ça fait donc 2 matchs, 2 défaites pour la Tunisie, une sélection qui affichait en Russie des limites.
Oui, c'est faible sur toutes les lignes. La défense a pris l'eau de toutes parts aujourd'hui. Elle n'avait pris que 2 buts lundi, mais à cause de la maladresse des attaquants anglais, l'animation offensive inexistante à Volgograd a été un petit peu meilleure aujourd'hui, grâce notamment à un Wahbi Khazri très remuant, mais lui au milieu de terrain a dans l'ensemble été dépassé dans les duels, et par l'Angleterre et par la Belgique. Bref, il y a une voire 2 classes d'écart entre les Tunisiens et leurs adversaires dans cette Coupe du Monde. Un manque d'expérience aussi, c'est ce que reconnaît volontiers le sélectionneur Nabil Mahalou.
C'est le manque d'expérience et aussi il ne faut pas se voiler la face. Il n'y a pas photo, il y a une différence énorme à tous les niveaux. Surtout sur le plan athlétique, on est encore loin. Il nous faut encore une voire 2 générations. Il faut avoir le maximum de joueurs qui jouent dans des championnats UP pour pouvoir rivaliser avec les gens qui jouent en première ligue. Comme je l'ai dit tout de suite après le tirage au sort, pour moi c'est le groupe le plus difficile. Quand tu as tous les joueurs qui jouent pratiquement en première ligue, les championnats les plus UP en monde, plus 80% des joueurs belges jouent en première ligue aussi. C'est des joueurs qui jouent toutes les semaines, 2 matchs par semaine, voire la Champions League, un match de première ligue de haut niveau. Donc c'est la compétition de haut niveau qui fait évoluer les joueurs.
Oui, les joueurs tunisiens, eux, évoluent pour la plupart soit en Arabie, soit Saoudite, soit en Afrique, soit quelques-uns seulement en Europe. Reste maintenant un match à la Tunisie pour sauver l'honneur dans ce tournoi et remporter une victoire qui la fuit depuis 1978 en Coupe du Monde. Ce sera jeudi prochain face au Panama à Saransk. Encore faut-il que les Aigles aient récupéré moralement et physiquement après ces 2 défaites douloureuses contre l'Angleterre et la Belgique. La Belgique qui, elle, est quasiment qualifiée pour les 8e de finale.
Merci Eric, bonne soirée. Un pas de géant vers les 8e de finale, c'est ce que viseront les Sénégalais demain à Ekaterinbourg au menu des Lions. Le Japon, une équipe qui, comme le Sénégal, a remporté son premier match. Une équipe dont se méfie un ancien de la maison, le consultant de Radio Foot International, Habib Bey. Écoutez.
Un match complètement différent de celui de la Pologne, peut-être moins de talent individuel du côté des Japonais. Je pense à la Pologne qui a quand même Lewandowski, Milik, Zielinski, qui sont des joueurs reconnus aujourd'hui en Europe et qui sont très très bons. Les Japonais sont un peu des joueurs qui jouent dans leur championnat, très peu se sont exportés. À partir de là, on va avoir un football qui va être beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide en termes de mouvement, moins peut-être qualitatif sur la finition. Mais je trouve que c'est vraiment collectivement intéressant le Japon, c'est-à-dire qu'il y a une vraie unité, ce sont des joueurs qui sont très solides, leader très discipliné, ça c'est dans leur culture. Même si c'est pas flamboyant, j'ai trouvé ça efficace. Face à la Colombie, ils ont joué à 11 contre 10, donc c'était un petit peu plus simple pour eux. Mais ils ont pas lâché, ils ont été chercher leur victoire. Et ça, ça montre leur caractère et leur envie de bien figurer dans cette compétition. Donc il faudra être vigilant sur cet aspect fraîcheur, insouciance des Japonais, discipline et beaucoup de volume de course, je trouve. Il y a énormément de mouvements, des petits gabarits qui savent ressortir des duels en 1 contre 1. Donc il faudra être très intelligent dans l'aspect défensif des choses du côté sénégalais.
Et par rapport à la Pologne, c'est un adversaire qui a priori correspond bien ou pas très bien au Sénégal?
Bah, on a pu voir qu'en match amical, on a joué contre la Corée du Sud et on l'a emporté 2-0. Donc, je vais pas comparer le football japonais et celui de Corée du Sud, mais il y a quand même une corrélation entre les deux. Et qu'à partir de là, on a bien appréhendé ce match face à la Corée du Sud. Maintenant, c'est un match de Coupe du Monde. C'est complètement différent dans l'aspect. Il faudra pas arriver avec trop de confiance par rapport à cette victoire sur le premier match. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'ils arrivent avec de la sérénité. Mais les Japonais ont 3 points comme les Sénégalais. Donc ça, il faut pas l'oublier. Je crois que le Sénégal a les atouts individuels et collectifs pour battre ces Japonais. Maintenant, à partir du moment où elle met le même impact, le même investissement qu'ils ont pu mettre contre la Pologne et la même concentration. Parce que ça, c'est très important au football.
Habib Bey qui hésite entre le « il » et le « on » quand il évoque le Sénégal. C'est le cœur qui parle, c'est l'ancien Lyon aussi. Évidemment, lui n'a jamais été capé avec cette sélection, mais il colle au basque des Sénégalais en Russie. J'appelle bien sûr Olivier Pron à Ekaterinbourg. Bonsoir mon cher.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Olivier, vous avez assisté aux conférences de presse des 2 sélectionneurs, c'était tout à l'heure. Alors d'abord, que s'est-il dit côté sénégalais ?
Et ben du côté des Sénégalais, on était calme, détendu, drôle et surtout très complice. Et ça, c'est toujours bon signe. Il y avait Aliou Cissé, bien sûr, le sélectionneur, et il était venu avec sa star, la star de l'équipe, même si c'est d'abord un groupe et qu'il l'a rappelé à maintes reprises, Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool. C'est un groupe et deux hommes en confiance qu'on a vu, hein, bien sûr, après la victoire face à la Pologne en ouverture mardi dernier, avec des hommes sûrs de leur force, mais respectueux et prudents. L'objectif, bien sûr, ce dimanche, c'est de prendre 3 points. Ça ne les qualifierait pas assurément pour les huitièmes de finale, mais ça les en rapprocherait vraiment. Sadio Mané, lui, annonce un match plaisant, à jouer et à regarder, et on ne demande, croyez-moi, qu'à le croire.
On jette maintenant, Olivier, un coup d'œil dans le camp adverse, puisque vous avez vu également les Japonais. Quel est, de ce côté-là, le discours, l'impression générale?
Le cliché parfait du côté de Akira Nishino, et ça c'est le sélectionneur, et de Maya Yoshida, le défenseur de Southampton, ex-coéquipier d'ailleurs de Sadio Mané, qui a parlé de lui de manière assez drôle. On est dans le stéréotype, l'équipe africaine considérée comme physique beaucoup plus que technique, et on a pu se rendre compte, et on le sait depuis longtemps, que le football africain a évolué considérablement, qu'il est aujourd'hui extrêmement technique également. Sadio Mané ne jouerait pas dans l'une des meilleures équipes d'Europe, et toute l'équipe dans la foulée, hein, ils jouent tous dans les grands clubs européens ou presque. Ils sont convaincus, les Japonais, que les points faibles des Sénégalais, eh bien, ce sont les coups de pied arrêtés et le gardien. Carrément, Khadim Ndiaye est considéré comme un point faible. Bon, les Sénégalais l'auront noté, et les Japonais qui toutefois, eh bien, font du Sénégal le favori. Aliou Cissé a répondu très bien, dont acte. Ok, on est les favoris. Ben, on va voir ce qui se passe ce dimanche.
Voilà, merci Olivier, c'est noté sur l'agenda. On vous retrouve donc dimanche demain à partir de 13h30, temps universel, sur nos antennes Afrique, pour l'intégrale autour de ce Japon-Sénégal. L'autre équipe africaine en forme, c'est le Nigeria, la sélection du continent qui s'est d'ailleurs le plus souvent qualifiée pour le deuxième tour, 3 fois en 5 participations. La passe de 4 est possible depuis la victoire hier 2-0 contre l'Islande. Voilà la défaite initiale face à la Croatie, en partie rattrapée un sursaut qu'a évoqué Gernot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles, avec l'un de nos envoyés spéciaux, Hugo Moissonnier. Tout cela à 3 jours d'un match décisif contre l'Argentine.
Il a fallu se fâcher un petit peu, hein. J'aime pas ça, mais quelquefois c'est nécessaire. Et à la mi-temps, il y a eu quelques mots. Quand on veut gagner un match, on peut pas jouer comme c'était le cas en première. Peut-être la chaleur, peut-être aussi, et sûrement une bonne équipe islandaise. Ils sont très solides. C'était encore une fois un match à l'extérieur, comme vous voyez ce public viking qui est très présent. Et nous, avec nos 500 Nigérians, on était un petit peu battus dans les tribunes. Mais sur le terrain, en deuxième, c'était correct.
Un groupe soudé, peut-être pas le plus grand nombre de supporters, mais un groupe très soudé. Ben Moussa, il était remplaçant plutôt ces derniers temps, il n'était pas forcément titulaire. Vous le mettez titulaire pour ce match, et tout le banc se lève et vient le féliciter au moment de son but. C'est la preuve que c'est un groupe uni, ce groupe des Super Eagles.
Oui, c'est surtout après la défaite qu'il fallait montrer qu'on est un groupe uni. Les critiques tombent, le doute s'installe, mais je savais que contre la Croatie, qui a pour moi une des meilleures équipes dans ce mondial, l'équipe a fait un bon match. Elle a concédé 2 buts qui étaient évitables sur un autogol, un but contre notre camp, et un penalty aussi qui n'était pas nécessaire. C'est la jeune équipe qui fait des fautes de jeunesse, il faut leur pardonner. Et c'est après cette défaite que le groupe a prouvé qu'il est uni. Quand vous marquez un but, il est facile d'être uni. Mais quand vous perdez, ce n'est pas évident.
Ahmed Moussa, meilleur buteur de l'histoire du Nigeria en Coupe du Monde. 2e doublé pour lui en 2 Coupes du Monde. Un mot sur ce joueur qui fait partie maintenant de la grande histoire des Super Eagles.
C'est formidable. Je suis très heureux pour lui parce que c'est en Russie en plus. Comme il joue au ZSKA Moscou. Ça a été difficile en première mi-temps, mais en deuxième, il a déclenché notre victoire avec ce magnifique tir, et le deuxième but était très très bien construit aussi. Et après, les jeunes ont pris confiance, ils ont bien joué, et il a fallu qu'à mettre entre dès le début du match pour redonner un élan à notre équipe.
Ce match face à l'Argentine, une finale, comment vous l'appréhendez? L'Argentine de Lionel Messi en difficulté, vous êtes en position de force à Saint-Pétersbourg, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer pour ce groupe très jeune.
Oui, Il faut le gérer. Déjà, on a un jour de moins de récupération. J'ai pas de blessure, heureusement, mais un petit peu de fatigue quand même. Il va falloir remettre ça contre un favori. Nous restons humbles. Moi, j'aime beaucoup cette équipe parce qu'elle sait rester les pieds sur terre. On sait qu'on n'est pas encore au top, qu'il va falloir beaucoup travailler pour être à l'égal de l'Argentine.
Gernot Rohr, le sélectionneur d'un Nigeria relancé par cette victoire contre l'Islande, un résultat qui fait aussi les affaires de l'Argentine, la grande déception de ce début de mondial. Paradoxalement, l'Albicéleste rétrograde à la dernière place de cette poule, mais les coéquipiers de Lionel Messi ont toujours leur destin entre leurs pieds. Pour vous expliquer tout ça, le plus français des Argentins, ou l'inverse, Alejandro Valente. Bonsoir Alejandro.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Alors, on les avait laissés au fond du trou jeudi soir, vos chers Argentins, giflés, corrigés par la Croatie. Le résultat d'hier a-t-il éclairci l'horizon du côté du centre Bronitsi, le camp de base de l'Albicéleste, dans la grande banlieue de Moscou?
Un peu, certainement. Disons que ça permet à l'Argentine de continuer à espérer un miracle, comme on l'appelle dans la concentration de l'équipe d'Argentine, un miracle qui sera une qualification pour les huitièmes de finale, probablement contre l'équipe de France. Mais il faut dire que depuis jeudi, quand même, les esprits sont très marqués par la défaite face à la Croatie. Et donc, il est difficile de se faire une idée de l'état d'esprit des joueurs argentins. Est-ce qu'ils seront vraiment motivés pour aller chercher cette victoire face au Nigeria? Pour l'instant, c'est un peu difficile à répondre.
Alejandro, dites-nous aussi, peut-on espérer voir Lionel Messi mardi prochain contre le Nigeria? Ou alors, ce sera encore, vous allez dire que je suis sévère, son fantôme?
Écoutez, difficile à dire. En tout cas, c'est le grand mystère de cette équipe d'Argentine. Qu'arrive-t-il à Lionel Messi? Depuis le match contre l'Islande, il ne quitte sa chambre que pour aller manger ou pour aller s'entraîner. Il ne parle quasiment avec personne. Donc, il est très difficile de connaître son état mental et son état d'esprit aujourd'hui. Pareil qu'hier soir, il y a eu une réunion entre les staffs techniques, le président de la Fédération d'Argentine et les joueurs, qu'il y a participé, qu'il est intervenu, donc ça peut témoigner d'une amélioration dans sa vision des choses, mais de toute façon c'est les grands mystères, ce sera le grand point d'interrogation. Si Lionel Messi retrouve ses esprits et si on a envie de gagner, l'Argentine peut espérer battre le Nigeria et même aller plus loin en cette Coupe du Monde, sinon ce sera très compliqué.
Pour le reste, faut-il s'attendre à des changements mardi prochain dans le 11 argentin, au risque d'accentuer cette impression, cette réputation d'improvisateur qui colle au sélectionneur Jorge Sampaoli?
Bah écoutez, il y aura sûrement quelques changements, à commencer par le gardien. Il paraît que Willy Caballero est très touché, très affecté par sa bourde qui a permis à la Croatie d'ouvrir le score jeudi. Donc il sera très certainement remplacé par le gardien de River Plate, Franco Armani. Pour le reste, on n'en sait pas grand-chose, mais on imagine que Giovanni Lo Celso, le joueur du PSG, pourrait faire son entrée dans cette équipe.
Merci Alejandro. On tremble donc côté argentin. En revanche, horizon dégagé pour les Bleus, l'équipe de France qualifiée pour le prochain tour après sa victoire 1-0 sur le Pérou avant-hier. On va quand même prendre des nouvelles de Didier Deschamps et ses troupes avec notre monsieur équipe de France, Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Alors Antoine, à peine rentré d'Ekaterinbourg, les Bleus ont repris leurs habitudes au camp de base avec la satisfaction d'avoir participé ou assisté à un match référence dans ce mondial.
Et oui, parce que si la seconde période n'a pas été particulièrement aboutie, la maîtrise défensive des tricolores face à la Blanquirroja a été soulignée par de nombreux joueurs. Et c'était finalement sûrement ça l'objectif au retour des vestiaires, garder ce petit avantage de 1-0 après le but de Mbappé en soudant le collectif. Les joueurs français étaient d'ailleurs heureux de leur performance, que ce soit au niveau du jeu ou de l'état d'esprit. En tout cas, depuis son banc de touche, Florian Thauvin, l'attaquant de l'OM, assure avoir pris du plaisir.
On a affiché un état d'esprit remarquable lors de ce match contre le Pérou. C'était une équipe qui était difficile à jouer, il fallait être présent dans l'impact. L'état d'esprit, il se devait d'être irréprochable et c'est ce qui s'est passé. C'est aussi pour cela qu'on a réussi à gagner ce match. Et je pense qu'après le match contre l'Australie, il était important de prendre conscience de ça Et c'est ce qui a été fait.
Preuve de cet état d'esprit, Antoine, le rôle de Kylian Mbappé, critiqué pour son peu de goût pour les tâches défensives, l'attaquant du PSG a cette fois tenu son couloir contre le Pérou.
Oui, et ça ne l'a d'ailleurs pas empêché de marquer, mais son visage en zone mixte après la rencontre en disait assez long finalement sur son sentiment. Mâchoire serrée, son trophée d'homme du match en main, le Parisien n'avait pas du tout envie de sourire, mais il a fait le boulot, comme on dit, et Florian Thauvin lui reconnaissait ce mérite, assurant avec quand même quelques précautions locutoires que son partenaire en bleu n'avait pas si mal vécu ses obligations.
Je l'ai senti bien, en forme, j'ai pas eu la sensation qu'il boudait un peu, donc peut-être que j'ai raté quelque chose, mais en tout cas, il avait l'air d'aller bien, il a marqué son premier but en Coupe du Monde, donc voilà, je suis très content pour lui, très content pour l'équipe, mais en tout cas, je vous rassure, j'ai joué aux cartes avec lui dans l'avion après, et il allait très bien.
Et avec ses sacrifices, on va dire, Didier Deschamps a sûrement trouvé un système de jeu qui convienne parfaitement à son équipe.
Et en tout cas, une organisation à deux milieux défensifs dans laquelle Paul Pogba s'est senti à son aise. La prestation du Mancunien avec à ses côtés un N'Golo Kanté impressionnant a marqué les esprits. Ça faisait longtemps que Pogba n'avait pas marqué les esprits. Le franco-guinéen, hein, dont le jeu a été porté vers l'avant face au Pérou, avec 22 passes tentées et 16 réussies vers ses partenaires d'attaque. Un 4-2-3-1, donc suffisamment encourageant pour être retenté. C'est en tout cas l'avis du latéral Djibril Sidibé.
C'était impressionnant. Après, voilà, dès l'échauffement, on a senti vraiment une concentration plus qu'élevée comparée à l'Australie. Après, chacun connaît les qualités d'N'Golo Kanté. Et puis, Paul Pogba a plutôt bien débuté ce mondial avec beaucoup de simplicité, et puis, beaucoup d'intensité et puis, une bonne réflexion dans tous ses choix. Après, plus les matchs avançaient, plus voilà, on sentait une équipe vraiment solidaire, soudée, et puis tous tournés vers le même objectif. Donc, au bord du terrain, c'est sûr que même nous, on partageait ce sentiment. On était contents de voir cette équipe vraiment soudée.
Un milieu de terrain qui aura pesé sur celui du Pérou, libérant des espaces pour les attaquants et notamment Olivier Giroud, le joueur de Chelsea dont la titularisation est finalement l'autre réussite flagrante de Didier Deschamps dans ce match.
Ce match, malgré tout, il a laissé des traces physiques notamment.
Et Samuel Umtiti n'a ainsi pas participé à l'entraînement collectif ce samedi. Le Barcelonais qui était titulaire en charnière avec Raphaël Varane continue de soigner la béquille qu'il a reçue à la cuisse gauche contre les Péruviens. À noter qu'Adil Rami n'était pas là non plus. Lui a pris un coup sans gravité à un mollet. C'était vendredi lors du match entre les remplaçants français et les U19 du Spartak Moscou. Un match remporté 11-0 par les Bleus et dont on reparlera demain parce qu'il est intéressant.
Rendez-vous est pris demain pour Mondial Sport dimanche. Merci à vous Antoine Grenier, bonne soirée. Période Russia en avant, la Russie, la joie, les klaxons de Saint-Pétersbourg. C'était mardi soir après la victoire de la Russie sur l'Égypte, la deuxième de la Zbornaïa, inattendue. Alors forcément, les Russes se prennent au jeu. Écoutez par exemple ce supporter, Anton.
Je suis tellement heureux, tellement excité. 3-1, je ressens trop d'émotions, je ne sais pas quoi vous dire. Nous avions des problèmes avec notre équipe, mais aujourd'hui nous avons montré à tout le monde que nous avons une très bonne équipe. Nous sommes fiers de la Russie.
La fête à Saint-Pétersbourg, la fête un petit peu partout en Russie, un pays que sillonne notre correspondant Daniel Vallaud. Daniel, bonsoir, vous êtes aujourd'hui à Ekaterinbourg, c'est bien ça ?
Absolument.
Dites-nous alors, comment les Russes perçoivent-ils ce phénomène, cette fête permanente qui se déroule sous leurs yeux ?
Bien écoutez, à Ekaterinbourg où je me trouve, l'ambiance a un tout petit peu retombé hein, depuis le départ des fameux supporters péruviens qui ont mis ici une ambiance absolument incroyable. Mais malgré tout, la fête continue, le centre-ville est très animé, toute la ville attend le match entre le Japon et le Sénégal. En attendant, donc, les gens continuent d'aller et venir sur la principale rue piétonne qui se trouve non loin du stade, de célébrer cette fête du foot, de se rencontrer, d'échanger, de parler de football et de plein d'autres choses. C'est vraiment un moment de rencontre. Et cette rue piétonne dans le centre d'Ekaterinbourg, elle elle est devenue un petit peu le point de ralliement des supporters, un peu comme la rue Nikolskaya à Moscou, avec ses scènes de fêtes et de rencontres. Et ce qui est vraiment remarquable hein, dans cette fête qui a débuté depuis que le mondial a commencé, c'est que les supporters qui viennent ici en Russie se sont emparés de la rue comme d'un lieu de réunion et de rencontre, alors même qu'en Russie, c'est justement ce que le pouvoir essaye d'éviter de façon assez systématique. La fête n'a pas lieu forcément dans les lieux où la FIFA et le gouvernement russe avaient prévu qu'elle se déroule, c'est-à-dire dans les fan zones. Et cette sortie de route, elle est tolérée par les autorités et cela fait sans doute beaucoup de bien à tout le monde ici, aux supporters étrangers qui trouvent ça un petit peu normal et surtout aux Russes qui ont l'impression de respirer avec un petit peu plus d'aisance depuis que le mondial a débuté.
C'est ça qui est surprenant finalement pour beaucoup de gens, c'est que les Russes participent très largement à cette fête.
Oui, alors d'ailleurs, c'était pas du tout gagné au début de ce mondial. Hein. Dans les semaines qui ont précédé, il y avait vraiment pas du tout d'engouement pour cette compétition. Il faut savoir que les Russes sont pas forcément fans de foot. Ils préfèrent plutôt le hockey, même si dans les grandes villes, il y a vraiment une culture du foot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis les deux victoires engrangées par l'équipe de Russie, la première contre l'Arabie Saoudite, la deuxième contre l'Égypte, il y a un vrai engouement qui naît dans le pays. Et surtout, les Russes, eux aussi, sont descendus dans la rue avec leur drapeau, avec leur chant, avec leur sifflet. Et ils ont fait la fête, ils font la fête avec les autres supporters. Ils occupent l'espace public, ils refusent d'obéir donc à la police qui essaye à peine d'essayer de les disperser. C'est vraiment une ambiance assez particulière, y compris pour les Russes qui n'y sont pas vraiment habitués.
Et c'est loin d'être fini, on rappelle que cette Coupe du Monde s'achèvera le 15 juillet. Merci beaucoup Daniel Vallaud, bonne soirée à vous, prochaine étape.
Retour à Moscou après le match entre le Japon et le Sénégal.
Allez, on parle rugby maintenant. Les Bleus broient du noir, les Bleus broyés par les Blacks de Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui à Dunedin, 49-14, score final, troisième défaite, troisième raclée, on peut dire, pour le 15 de France face aux champions du monde. Le bilan de cette tournée d'été fessée est signé Vincent Delzesco.
Personne n'a cherché à s'en cacher. Essuyer trois échecs en trois matchs est évidemment une déception sur une tournée, mais Jacques Brunel aura de quoi en tirer quelques conclusions. Dans le jeu, d'une part, où les Bleus ont réussi à rivaliser par épisode avec les All Blacks, et chez les hommes, ensuite, où l'absence de certains cadres a permis à d'autres joueurs de se mesurer à ce qui se fait de mieux.
Il y a d'abord beaucoup de joueurs qui n'avaient pas participé au tournoi qui sont venus. Donc on fera le bilan avec eux. Donc c'est intéressant de les voir dans des confrontations de ce type. Et puis il y a des bouts de partie qui sont vraiment intéressants. Donc on va retenir ça de positif sur cette tournée.
Un optimisme partagé par Anthony Bello. Le demi d'ouverture a débuté les trois rencontres. Bien sûr, la dernière défaite était frustrante et les chantiers sont nombreux. Mais le caractère affiché par les Bleus lui donne des motifs de satisfaction.
Voilà, il faut retenir les deux premières mi-temps du premier et du troisième match. L'état d'esprit général qu'il y a eu sur cette tournée, personne ne s'est échappé, tout le monde s'est donné à 100%. Après, voilà, on sait qu'on doit faire progresser sur certains domaines, notre conquête, voilà, être plus précis sur les zones de marque, concrétiser. Mais je pense que voilà, les scores sont lourds. On méritait peut-être pas d'en prendre autant, mais bon, néanmoins, il faut être réaliste et puis continuer à travailler parce qu'on a vu qu'on était capable de rivaliser avec eux.
Pour Félix Lambet, c'était un saut dans le grand bain face aux All Blacks. Le deuxième ligne ne s'est mesuré aux champions du monde que lors du dernier match, mais un mois en tournée a été riche en enseignements.
On apprend en étant ici, 4 semaines regroupés avec l'équipe, jouer 3 tests, même si je joue pas, je suis là, j'observe. Forcément, on apprend, on se rend compte du niveau. Moi, je découvre le niveau aussi. Je perds un ballon en contact. Aujourd'hui, voilà, je fais une erreur, j'apprends de cette erreur pour plus la reproduire. Donc, forcément, on sort quand même grandi de cette tournée.
Un son de cloche partagé par Wesley Fofana qui compte s'appuyer sur ce que les All Blacks ont proposé pour s'améliorer.
Je pense que, mine de rien, jouer contre ces joueurs-là, cette culture de rugby, ça nous donnera forcément quelque chose. Et il faut qu'on prenne ça et qu'on travaille très fort, individuellement et collectivement, pour arriver à leur niveau. Dans un an.
Et dans un an, ce sera la Coupe du Monde au Japon. Le 15 de France, c'est désormais le travail qui lui reste à effectuer pour bien y figurer. Vincent Delzesco, Dunedin RFI.
Voilà, les Bleus du rugby ont un peu plus d'un an pour se mettre au niveau. Et moi, quelques secondes pour vous remercier. Merci aussi à Thomas Trochot pour la technique. Je rappelle une dernière fois vos rendez-vous de demain. 13h30 temps universel Japon-Sénégal en intégrale sur nos antennes africaines. Et pour tout le monde, Mondial Sport, deuxième manche à 21h30. TU, bonne soirée sur RFI. Fiche.